Paula,
Vin
et Compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour auditrices et auditeurs, lectrices et lecteurs, c'est le 15e chapitre du deuxième tome de Polar Vin et Compagnie, mais c'est surtout le dernier roman du prix Robin Cook que nous allons analyser, que nous allons découvrir aujourd'hui en compagnie de Guy. Guy qui est de retour, mais où étais-tu donc passé ?
J'étais à Bordeaux.
Michel, qui a eu le prix d'interprétation du prix Robin Cook, notre lectrice. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et l'inspecteur Dérif qui est avec nous. Alors, c'est suspect coriace cette année ?
Oui, bonjour. Oui, l'équipe est pas facile. Les suspects sont toujours aussi suspects. Donc, l'enquête avance et on en saura plus, j'espère, le 20 juin lors de la conférence de presse.
On va parler de tout ça. Alors, avant justement de parler du dernier roman en lice au prix Robin Cook de Neige et Devant de Sébastien Vidal, un rappel des 5 romans et auteurs RIS en lice, Guy.
Les 5 romans sont La disparition d'Hervid Snout d'Olivier Bordassar, La théorie des ondes de Pascal Chouffaut, Sève de Olivier Gallien, La piste du vieil homme d'Antonin Varenne et De neige et de vent de Sébastien Vidal.
Dont on va parler aujourd'hui. Et vous pouvez effectivement trouver en podcast les émissions sur les 4 autres romans sur radiolarzac.org, bien sûr. Alors, qui est Sébastien Vidal ?
Oui, pour cette dernière présentation, on a fait par ordre alphabétique. Donc, on a le dernier par ordre alphabétique, après Bordassar, Chouffaut, Gallien et Varenne, c'est Vidal, Sébastien Vidal. Sébastien Vidal est un écrivain français, ancien gendarme, qui a reçu le prix Landerneau du Polar pour ce roman De neige et de vent, publié aux éditions Le Mot et le Reste. Originaire de Xaintry, au-delà de Xaintry, je ne connais pas trop, il a partagé ses études entre le Cantal et la Corrèze. Il vit désormais à Saint-Jal, en Corrèze. De neige et de vent est un roman noir qui se déroule dans un village isolé des Alpes à la frontière italienne, où une tempête de neige et de vent crée une atmosphère d'isolement et de tension. Le récit explore les thèmes de l'intolérance, de la peur de la différence et de la violence humaine exacerbée par l'effet du groupe. L'histoire suit une patrouille de gendarmerie confrontée à un meurtre dans des conditions météorologiques extrêmes, révélant les pires instincts des habitants du village. Lors de ma lecture, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un rapprochement avec des films tels que Délivrance, qui est d'ailleurs cité dans l'ouvrage, et Les 8 salopards de Quentin Tarantino, sans doute pour le huis clos dans La tempête de neige. L'écriture de Sébastien Vidal est riche et évocatrice, dépeignant avec minutie les paysages enneigés et les tempêtes de vent, renforçant ainsi le sentiment d'oppression et de désespoir qui imprègne le récit. Le roman est à saluer pour sa capacité à mêler les genres du noir, du western, voire de l'épouvante, tout en restant ancré dans une réflexion sociale sur la banalité du mal. De neige et de vent est un huis clos glacial et brutal, où la noirceur de l'âme humaine s'immisce dans la blancheur hivernale, offrant une lecture captivante et poétique.
C'est vrai que ça tranche avec le livre de Varenne qui se passait dans la chaleur malgache.
C'est pas la même température, je crois.
Non. Une petite info supplémentaire sur Sébastien Vidal et qui va faire plaisir à Nicolas, notre technicien, c'est que Sébastien Vidal est bénévole pour une radio associative de Corrèze, où il participe régulièrement à une émission, évidemment, littéraire. Alors, Michel, notre lectrice attitrée, vous avez choisi un extrait ?
Oui, on a choisi un extrait, j'ai choisi un extrait qui permet d'apprécier un peu la prose de Sébastien Vidal sans déflorer le livre qui a quand même une issue qui est un peu... J'aurais bien aimé mettre à la dernière, une des dernières scènes, mais c'était dommage pour les lecteurs futurs. Donc j'ai mis une scène de quelque chose qui se passe en parallèle, qui est important, mais qui est en parallèle. Voilà.
Il ne faut pas divulgâcher, comme on dit maintenant.
Il ne faut pas divulgâcher.
On écoute Michel.
Une poignée d'hommes se rassemble dans la rue principale, juste avant la fourche qui mène à la ferme. Tous sont armés et cagoulés. Ils se congratulent en se tapant sur les épaules, sans courage, se saluent. Frustrés par leur double échec de la mairie, ils ont décidé de s'en prendre à des gens beaucoup moins dangereux et qui ne rendent pas les coups. Depuis le temps qu'ils haïssent ces hippies, ils vont pouvoir se défouler. Alors qu'ils se mettent en route vers la ferme, ils stoppent net leur marche en découvrant six silhouettes qui se déplacent sur la route qui mène à la ferme et progressent dans leur direction. Leurs ombres les suivent de côté, allongées jusqu'à toucher les murs des habitations. Ils sont décontenancés par cette apparition, car elle bouscule leurs plans. Les hippies viennent à eux. Ils sont emmitouflés dans des vêtements chauds et portent tous un bonnet et des gants. Même si le soleil est de retour, la température est très largement en dessous de zéro. Gaëtan ouvre la marche, en tenant par la main Laurie. Le groupe se tient serré, comme si la peur les incitait à se rapprocher pour se protéger mutuellement. Ils ont décidé de s'installer pacifiquement devant l'entrée de la mairie pour protester contre ce déchaînement de violence et de folie. Ils ont aussi emporté un sac à dos contenant des provisions pour les assiéger. Ils savent qu'ils évoluent sur une ligne de crête très escarpée et dangereuse, que la moindre provocation peut mettre le feu aux poudres, qu'ils ne seront pas les bienvenus. En fait, ils ne savent rien de ce qui les attend. En voyant les hommes cagoulés, l'effroi se saisit d'eux et les fait ralentir. Les cinq individus s'écartent pour occuper toute la largeur de la rue et leurs ombres les relient comme un serment. Un ou deux ricanent et se régalent par avance. « Où que vous allez, mes mignons ?» commence celui qui paraît commander et qui se trouve au centre de la ligne. « Nous allons à la mairie. »« Pas de chance, la mairie est fermée. Pour travaux. » Les cinq se regardent en s'esclaffant, tout entiers gonflés de leur assurance. Gaëtan s'avance d'un pas et souligne en levant les mains à hauteur d'épaule qu'ils ne sont pas violents. Le chef du groupe des séides du maire, un type aux yeux bleus et au ventre énorme, fait aussi un pas et lui décoche un coup de crosse au ventre qui le fait se plier en deux et tomber à genoux. Laurie pousse un cri et l'enserre au niveau des épaules. « Retournez dans votre ferme à la con et profitez-en pour faire vos valises. On ne veut pas de vous ici. Vous faites tâche, surtout avec ces deux gouines. Pas de ça ici non plus. » Laurie meurt d'envie de répliquer. Elle en a assez de baisser les yeux, de subir les quolibets et les gestes obscènes quand elle traverse le village. Mais les cagoules et les yeux injectés qui les toisent l'en dissuadent. Un des types, le plus grand de tous, s'avance avec l'assurance des prédateurs qui chassent en groupe. Il pose une grosse main sur un sein de Fanny, puis la saisit à l'épaule avec l'autre main. Il ricane et se tourne vers ses potes et sur un ton concupiscent persifle. « Peut-être que je dois lui montrer ce que c'est qu'un homme. Si ça se trouve, elle aime les femmes parce qu'elle n'a jamais rencontré un vrai mec. » Les autres rient de plus belle et l'encouragent d'abord timidement, puis avec plus d'allant. Ils s'encouragent les uns les autres et l'effet du groupe banalise très vite l'idée insinuée de l'éventualité d'un viol. Le fait qu'ils portent tous un fusil achève de les désinhiber. Au départ, ils voulaient simplement se rendre à la ferme et tirer sur la façade de la maison pour s'amuser et les effrayer. Mais maintenant, la situation n'est plus du tout la même. Et les quelques verres de gnôle qui se sont envoyés pour se donner du courage n'arrangent rien. Le type malaxe le sein de Fanny et souffle comme un porc. Il a un début d'érection. Et Marie se jette sur le bras qui maintient sa compagne. La gifle que l'homme lui assène la fait tomber dans la neige. Elle se relève, les yeux noirs, une fine coulée de sang descendant d'une narine. Elle vomit une insulte et tire le bras droit de Fanny pour la ramener à elle. L'homme s'avance et dirige son fusil dans sa direction. Ses yeux sont deux billes noires insensibles. C'est là qu'une petite voix aiguë s'élève au-dessus de leur tête sur leur droite. « Baisse ton canon, trou du cul !» À l'étage de la maison devant laquelle ils se trouvent, ils découvrent une carabine Winchester, modèle 1894, calibre 30-30, pointée sur eux par une petite vieille coiffée d'une chapka d'Ekati. Foutez-leur la paix, vous autres, ça suffit » enchaîne-t-elle. Les hommes du groupe sont désarçonnés. Il y a un moment de flottement. La vieille, ils la connaissent tous, évidemment. C'est une originale, certes, mais elle n'a jamais posé de problème jusqu'à présent. Le gros bide raille. « Doucement, mamie, vous allez vous blesser avec cet engin, et puis c'est pas vos affaires. »« Maintenant si, ce sont mes affaires. Des années que je supporte votre crétinerie à vous autres, que j'entends vos sarcasmes, encore que je suis pas sûre que vous connaissiez ce mot. » J'en peux plus de ce village de dégénérés. Et pourquoi t'es encore là, alors? Je vous étudie pour la recherche scientifique.
Quoi?
Je veux que vous posiez vos fusils dans la neige et puis je veux que vous dégagiez.
Tu crois vraiment que c'est toi qui vas faire la loi, la vieille folle?
Éructe le grand type. En réponse, elle actionne le levier de chargement de la Winchester et pointe le grand escogriffe.
Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, grand machin? J'y vois plus très bien. J'ai pas tiré depuis longtemps. Mais là, je suis très près de vous. Et comme disent les militaires, qui tient les hauts, tient les bas.
Celui qui commande, la grosse panse, se gratte la joue à travers la cagoule et tonne en pointant son doigt menaçant vers elle.
Tu le payeras cher, ça, fais-moi confiance.
Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire? Me tuer comme vous avez voulu faire avec ce pauvre gars? Vous croyez vraiment que vos cagoules vous protègent? Tu crois que je t'ai pas reconnu, Robert? Quand on se paye une panse comme la tienne, une cagoule, c'est inutile, tu devrais le savoir. Et toi, Stanislas, t'es toujours fourré avec ce crétin. Et t'es le seul au village à porter cette horreur avec un pompon rouge. C'est vrai que d'habitude, tu la roules pour en faire un bonnet, mais ça te donne pas plus d'allure.
À ces mots cinglants, les deux hommes bougent subrepticement, ébranlés, et comme si cela pouvait arranger les choses, ajustent leur couvre-chef. Stanislas passe ses doigts sur le pompon rouge, s'aperçoit que les autres le regardent, et d'un geste vif retire sa main. Leurs yeux forment des points d'obsidienne cernés de blanc, autour desquels les cercles de laine donnent l'impression qu'ils portent des lunettes.
« Vous croyez que j'ai peur? J'ai 99 ans, j'en ai plus rien à foutre. Mais avant de claquer... Si vous me donnez une excuse pour soulager la planète de la présence de l'un de vous, je ne raterai pas mon coup, soyez-en sûr, tout autant que vous êtes. »
La vieille fait un geste avec la carabine, en montrant la rue dans l'autre sens, et réitère « Dégagez !»
Ben merci Michel. Waouh, waouh, quelle ambiance dans ce village, dans ce huis clos. On a eu l'habitude de parler des couvertures des polars qui étaient dans le concours Prix Robin Cook. Donc, De neige et de vent, une belle couverture, une photo prise certainement d'un drone, du dessus, d'un bosquet d'arbres couvert de neige, gelé. Et puis, oh mince, j'ai taché la couverture. Oh, mais non, c'est une tache de sang. Oh là 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 là.
Peut-être, on te l'a dit.
Quel mystère. Voilà, c'est dans l'édition Le Mot et le Reste. Le Mot et le Reste, maison d'édition que moi je connaissais surtout pour leur production de livres en lien avec la musique.
Aussi.
Voilà. Allez, comment Sébastien Vidal a-t-il résisté à l'inspecteur des riffs ?
L'interrogatoire de l'inspecteur des riffs.
À ta place, moi, je prierai pour que ça finisse vite.
Bonjour, monsieur Vidal. Vous êtes entendu ce jour comme témoin. Et vous êtes soupçonné d'avoir commis un roman noir, De neige et de vent, avec la complicité de l'éditeur Le Mot et le Reste. Pour ce délit, vous risquez tout simplement d'obtenir le prix Robin Cook en juin 2025. Une fois déclinée votre identité, vous pourrez répondre à mes questions ou garder le silence, ce que je ne vous conseille pas. Allez-y, on commence donc. Nom, prénom, profession et lieu de résidence.
Alors Vidal Sébastien, romancier, résidence, le village de Saint-Jal, en Corrèze.
Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à commettre De neige et de vent ?
Ce qui me pousse toujours à commettre un roman, c'est une première scène initiale qui m'apparaît comme un fragment cinématographique qui dure quelques secondes. Et dans cette scène initiale, je voyais un homme qui marchait dans la tempête, sous la neige, le long d'une route avec un chien qui sinuait un peu devant lui, quelques mètres devant lui. Et c'est ce qui a été l'amorce, la scène fondatrice du roman. Et ensuite, ça a fait son chemin dans ma tête pendant des mois et des mois. Et au bout d'un moment, j'ai su de quoi je voulais parler. Et en fait, c'est vraiment comme un fragment de film. Ça dure quelques secondes et je vois vraiment ce gars qui marche dans la tempête, couvert de neige, avec son chien devant, qui sinue et qui laisse des traces, des petits points dans la neige. Je garde ça parce que ça m'arrive souvent d'avoir des scènes comme ça qui me passent dans la tête. Je sais tout de suite quand une scène, une première scène comme ça, va faire un roman ou va disparaître. Et là, je savais que ça allait faire un roman. C'était tellement fort qu'il y a une intensité, une clarté dans l'image que je savais que ça allait faire un roman. Bon, je l'ai gardé dans ma tête. Et puis, au bout de quelques temps, quelques semaines, passé le délai, le temps de l'émotion, je l'ai écrite. Alors ça donne uniquement un paragraphe, hein. Je l'ai écrite et hop, elle est remise dans un coin et à partir de là je laisse travailler et l'histoire s'invite comme ça, il suffit de quelque chose qui me fasse penser et plusieurs fois par jour j'y pense et l'histoire et les personnages se construisent comme ça. Alors je me documente si j'ai besoin, là j'ai pas eu besoin de me documenter mais je me documente si j'ai besoin et puis à un moment je sens qu'il faut que j'y aille, là, comme si quelqu'un me arrivait dans mon dos et me poussait en me disant allez faut se mettre au boulot quoi, et là bah, je m'y mets. Je voulais vraiment parler de l'état du pays en réalisant une sorte de précipité au niveau d'un hameau, en mettant en exergue toutes les dissensions et les divisions qui nous traversent.
D'accord. Et dans ce roman, quel est votre personnage préféré ?
J'ai quand même beaucoup de tendresse pour Victor, le voyageur, par son parcours et sa relation avec son chien.
D'accord. Et alors, quel est celui que vous élimineriez sans aucun état d'âme ?
Ah, celui que j'éliminerais sans aucun état d'âme serait probablement... ça se discute, mais je pense que j'éliminerais, pour des raisons que je ne peux pas dévoiler le gâcher, un des proches hommes de main du maire du village.
D'accord, j'en prends note. Donnez-moi 4 ou 5 mots clés qui définissent votre roman De neige et de vent.
Je dirais sociétal, huis clos, nature, hiver.
Sociétal, huis clos, nature, hiver. Et pourquoi ? Vous pouvez développer ?
La sociétale, pour les raisons que j'ai énoncées sur les motivations d'écrire ce roman, c'est-à-dire que c'est un roman qui parle de nous aujourd'hui ou juste après-demain. Huis clos parce que c'est un huis clos qui est en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on a un premier huis clos à l'échelle du village, un deuxième huis clos qui se situe dans la mairie, et ensuite un troisième niveau où on a un huis clos dans l'esprit de chacun des protagonistes. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit nature, parce que là, comme dans tous mes romans, la nature est omniprésente. Parce que je considère que nous sommes façonnés par les endroits où nous vivons, et donc par la nature, qui influe sans qu'on s'en rende compte, plus ou moins, sur les décisions qu'on prend, et sur aussi nos humeurs. Et enfin, l'hiver, parce que là, ça se passe dans un hiver très présent et de surcroît avec une violente tempête de neige.
D'accord. Et j'ai une question qui me trotte dans la tête. Oui. Si je lis votre roman, quel vin ou quelle musique me conseilleriez-vous pour l'accompagner ?
Alors, si on veut être bucolique, La Montagne de Jean Ferrat, ça serait pas mal. Mais c'était pas du tout dans l'ambiance.
Ouais.
Comme musique, si je reste dans l'Hexagone, ça pourrait être Néant 17 à Leidenstadt, de Jean-Jacques Goldman. Et comme vin, un alcool de montagne, quelque chose comme le Genépi. Mais s'il faut vraiment du vin, un vin assez rugueux et âpre. produit d'ailleurs en Corrèze, dans le sud de la Corrèze, là, dans les vignobles de Branseille. Un mille et une pierres. Voilà, c'est le nom du vin. Un mille et une pierres, quelle que soit l'année, voilà, ça pourrait faire l'affaire.
Très bien. On contactera ce témoin supplémentaire, certainement. Bien. Monsieur Sébastien Vidal, à cette étape de la procédure, vous êtes considéré comme témoin libre.
Oui.
Nous vous demandons cependant de rester joignable jusqu'à la remise du prix Robin Cook le 20 juin 2025. Vous êtes donc sous ORTF, obligation de rester sur le territoire français.
D'accord,
merci de votre collaboration et à bientôt, monsieur Vidal.
Merci beaucoup.
J'avais été allemand. Merci d'humiliation, de haine, d'ignorance, nourri de rêves de revanche. Aurais-je été de ces improbables consciences, larmes au milieu d'un torrent. Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste, aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir ton humain. Si j'étais né blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur, aurais-je entendu ces cris portés par le vent. Ne sera comme avant. On saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventres, caché derrière nos apparences. La main d'un brave ou d'un complice ou d'un j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Mais qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps.
C'était Né en 17 à Leidenstadt de Jean-Jacques Goldman, un morceau choisi par Sébastien Vidal pour illustrer De neige et de vent.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Oui, eh ben, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
Donc, nous sommes avec Philippe Léma, qui est vigneron à Branseille. Et moi, j'ai été surpris d'apprendre qu'il y avait des vignes en Corrèze.
Eh bien oui, c'est un vieux vignoble français, puisqu'au début du siècle, avant le phylloxéra, il y avait 16 000 hectares de vignes en Corrèze, ce qui représente à peu près l'équivalent du vignoble alsacien aujourd'hui.
Voilà, alors heureusement, Sébastien Vidal, qui est l'auteur de Neige et de Vent, qui est habitant de Corrèze et qui nous a dit « Ah, mais pourquoi pas le vin, les mille et une pierres ?» Donc ça, les mille et une pierres, c'est votre marque, votre nom de vin ?
Oui, c'est ça, puisque nous, on est sur des sols argilo-calcaires, c'est du calcaire blanc. Et en fait, quand on plante les vignes, on est obligé de passer le ripper pour sortir des gros rochers qu'on broie, et ça fait des petits cailloux, d'où le nom « mille et une pierres » qui apporte des vins de caractère avec ce calcaire blanc qui rayonne toute la nuit en plein été, donc voilà, avec une maîtrise de température.
Un petit clin d'œil au mille et une nuits, j'imagine.
C'est ça aussi, ouais.
Du coup, nous ici, on a un vin qui s'appelle, je ne sais pas s'il s'appelle toujours d'ailleurs, le Saint-Saturnin, qui est un vin du Languedoc, là, qui était le vin d'une nuit, mais bon.
Voilà. Ah, nous, c'est le vin des mille et une nuits, ouais, mille et une pierres.
Donc vous me disiez, oui, alors, vous, c'est une cave coopérative, là, à Brinseilles.
Oui, on va être la plus petite cave de France, puisqu'on est 7 adhérents.
Ah.
On a 30 hectares de vignes à 7.
D'accord.
Mais pour nous, en viticulture, c'est une diversification, en fait, puisque chez nous, les agriculteurs font un peu de vignes, ils ont à côté aussi de l'élevage, des noix, voilà, c'est vraiment une activité diversifiante.
Et alors, Brinseilles, c'est situé où exactement, en Corrèze ?
Alors, nous, on est dans le berceau des plus beaux villages de France, puisqu'on est au milieu de Collonges-la-Rouge, Beaulieu, Turenne, Curmonte, Rocamadour, Martel, voilà. Donc, on baigne dans le tourisme, dans l'accueil, dans l'échange. On est le dernier village de Corrèze avant l'autre, en fait, au sud de la Corrèze, au sud de Brive.
D'accord. Et alors, quand vous disiez tout à l'heure, bon, il y a eu effectivement donc cette histoire ancienne avec une surface équivalente donc à ce que vous disiez, les vins d'Alsace. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Bon, Phylloxera. Phylloxera, fin du 19e, comme partout.
Voilà. Et après l'entre-deux-guerres, il y a eu la truffe qui est apparue, on ne sait pas trop comment, et qui est partie pareil, sans trop savoir pourquoi.
Ah bon ?
Qui a créé une certaine dynamique sur le village. Mmh. Mais comme il y avait cette tradition viticole, tous les paysans du coin avaient gardé un peu de vigne avec les hybrides qui sont plus replantés. Et donc, en 85, là, il y a une génération d'agriculteurs qui a voulu diversifier un peu les fermes. Et l'idée, naturellement, est revenue de relancer le vignoble corrézien. Et on a été le premier collectif à planter de la vigne en Corrèze.
D'accord. Et alors, vous plantez quoi comme cépage ?
Alors, à l'époque, comme on n'avait pas trop de références techniques en Corrèze, c'est les Bordelais qui nous ont accompagnés. Et du coup, on a planté les cépages Bordelais Merlot et Cabernet à l'époque, avec un petit peu de Gamay pour le rosé et du Chardonnay pour le vin paillé. Mmh. Maintenant, on fait du blanc à une Chardonnay.
Voilà, donc les types de vins, c'est ça. Vous êtes sur les trois couleurs, en fait.
Oui, on est sur les trois couleurs et puis on a le vin de paille qui est l'apéro local, hein, en fait, le produit référence de la région, anciennement le vin paillé. Et voilà, progressivement, le vignoble s'est un peu développé. Aujourd'hui, en tout, en Corrèze, il y a 80 hectares. Et on a eu l'AOC en 2017, qui est la reconnaissance du travail accompli depuis 35 ans maintenant, qui fait que voilà, on a une gamme de vins relativement large. Hein. On a deux rosés, un blanc, cinq rouges. Puisqu'en fait, sur les sept vignerons, il y en a quatre qui sont en bio et trois qui sont en conventionnel.
D'accord.
Ce qui nous permet d'avoir une gamme assez variée, assez large, avec des vins plutôt fruités sur les bio et des vins plutôt boisés sur les conventionnels.
Ouais, j'allais dire, comment vous les caractérisez, c'est ça, c'est plutôt...
Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce côté un peu fruité, avec beaucoup de matière sur des vins bio rouges sans sulfite.
Ouais.
Et après, les boisés, on est sur de la barrique neuve avec une provenance 100% française. Et puis, on a la chance d'avoir deux tonneliers à Brive avec qui on travaille en étroite collaboration. Ce qui fait qu'on a des vins de caractère, de vieillissement.
Paula.
Avec un tanin assez prononcé.
Et compagnie.
Et puis, le sol calcaire, une certaine puissance à nos vins.
Alors, si Sébastien Vidal nous a conseillé votre vin pour mieux apprécier son livre, avec quel plat vous... Quel plat vous nous conseillez pour mieux accompagner votre vin ? En principe, c'est l'inverse, mais là...
Ben, de manière classique, on a les rosés et le rouge de l'année qui sont plutôt sur les charcuteries, les apéros, etc. Et après, nos rouges sont plus des rouges de repas avec des bonnes viandes rouges, une bonne côte de bœuf de Limousin ou d'Aubrac à choisir, et des plats en sauce. Et puis notre blanc, c'est un blanc... qui est assez consensuel, c'est un blanc qui passe aussi bien à l'apéritif que sur un fromage. C'est un vin avec une bonne diversité, un peu sur des notes de pêche blanche, poire, là, fruits blancs. Voilà. Donc, avec un bon équilibre, élevé en cuve sans bois. Voilà. Donc, des vins d'été de partage.
Alors, vous disiez, bon, vous êtes pour l'instant, en tout cas, sur une petite surface. Et quand je dis petit, évidemment, ce n'est pas péjoratif. Donc, vous êtes plutôt sur une production locale. Et j'imagine qu'on ne va pas vous trouver, du vin mille et une pierres en Aveyron. Mais par contre, si des gens passent à Brancey, ils peuvent venir. Il y a donc la cave coopérative qui est ouverte.
C'est ça. Bon, en fait, on a cette typicité, c'est qu'on vend la moitié de la production directement au caveau, sur la commune de Brancey, donc qui est ouverte tous les jours, sauf le dimanche. Et après, sur le rayonnement, on va dire hors région, on travaille beaucoup avec les cavistes, qui sont des professionnels aujourd'hui qui aiment bien cette originalité de petites appellations pas très connues.
Tout à fait.
Donc voilà, selon les territoires, on peut nous retrouver chez les cavistes qui mettent en avant ces petits terroirs.
Et puis bien sûr, votre site 1001, donc 1001 en chiffres, -pierre-du-6 évidemment, pierre au pluriel.com. Donc 1001-pierre.com. Et bah écoutez, Philippe, merci. Et puis, bon, vous espère une bonne récolte pour 2025.
C'est ça. Et puis merci à vous. Et puis, grande salutation à l'Aveyron et au plaisir de vous accueillir en Corrèze.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Bon, ben voilà, on a épuisé notre stock de livres en lice pour le prix Robin Cook. Et attention, dernier jour demain pour aller voter dans votre médiathèque ou bibliothèque. Est-ce qu'on les rappelle ?
Oui, mais là, ça sort de mémoire, mais je pense que ce soit assez nombreuses.
Ouais.
Donc, nous avons Sainte-Afrique, nous avons Rivière-sur-Tarn, nous avons Le Viala-du-Tarn, nous avons
Saint-Bozély,
nous avons Millau, nous avons Honnay-le-Château, nous avons le bassin. Le
bassin Houillé avec des Cazeville, Firmy et Aubin.
Qu'est-ce qui manque ? S'il en manque une, Larzac.
Le Larzac, ouais.
Cornus. Larzac-Vallée. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour.
Alors, on rappelle que même si vous n'avez pas eu le temps de lire les 5 livres, vous pouvez quand même voter. Tu veux rappeler la règle, Guy ?
Oui, la règle de vote est relativement simple. C'est que vous pouvez voter pour un livre, vous avez un point à attribuer. Si vous votez pour 5 livres, vous en avez 5. Ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Et ça fera un classement en fonction du nombre de livres que vous avez lus. Si vous avez lu 2 livres, vous avez 2 et 1 à attribuer. Voilà.
Et donc ça, c'est pour le vote des lecteurs et lectrices. Et puis le jury se réunit bientôt et le résultat sera annoncé publiquement le 20 juin. On vous en dira plus. On leur laisse la surprise pour l'instant de savoir comment et où ça se passe.
Hein ? Oui.
Voilà, on vous le dira dans un prochain numéro du PVC, Polar V et compagnie. Voilà, ben... Moi, j'ai rien d'autre à dire. Guy, Michel ?
Non.
On peut rappeler le concours de nouvelles que les gens peuvent
oui,
postuler ?
Ah oui, c'est vrai. Oui, comme tu l'avais dit la dernière fois, je n'étais pas là, il y a un concours de nouvelles qui a été mis en place. Chacun peut concourir, tout apprenti écrivain. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas être professionnel, déjà, il ne faut pas avoir encore édité. Donc tout un chacun peut éditer, faire une petite nouvelle de 3 pages. C'est la procédure pour participer. Vous pouvez le trouver sur des affiches qui sont dans les médiathèques, bibliothèques. Vous avez affiché un peu en ville. Je ne sais pas où c'est qu'il y a encore. Ah, ou bien le demander. Là. Vous pouvez demander le règlement par mail à capsudaveyron12@gmail.com. Voilà. Et vous aurez la possibilité d'avoir le règlement complet pour voir comment ça fonctionne.
Mais surtout, on y reviendra sur le... lors du prochain Polar Vin et compagnie. Voilà, ben merci Dico de nous avoir rappelé ça.
Avec plaisir.
Donc voilà, Polar Vin et compagnie se termine. Rediffusion ce mardi à 16h. Et puis on se retrouve dans 15 jours où on reprendra une sorte de rythme normal puisqu'il en sera fini des romans du prix Robin Cook. Donc on parlera effectivement du concours de nouvelles avec déjà quelques textes qui ont été reçus par l'association. On vous remercie et on vous dit au revoir.
Au revoir.
Au revoir.